quoi. Après Reagan, on a laissé les marchés faire leur petit tour du pâté de maison pour revenir à la case départ.
Hein. Pierre Arditi.
On a demandé aux États d'éteindre l'incendie qu'ils avaient allumé eux-mêmes, sauf qu'au passage, les États, ils se crament aussi. Alors au final, on a brûlé beaucoup d'énergie, et puis on a perdu 30 ans.
30 ans.
Éric Orsenna.
C'est exactement ce que pensent les gens qui ne pensent qu'à la France. Pendant ces 30 ans, le monde a bougé comme jamais. D'abord, il y a des centaines de millions de gens qui étaient dans la misère, qui ont progressé vers la pauvreté et après qui se sont installés plus ou moins dans une classe moyenne.
Enfin, est-ce que dans cette planète encombrée, il y a encore une place pour la France ?
Mais bien sûr que oui. Il faut changer les menaces en opportunités. Je voyage énormément. J'ai fait un livre sur l'eau. Et je me rends compte que l'eau sera un des problèmes principaux que va rencontrer la planète. Et comme par hasard, les deux plus efficaces sociétés au monde dans le domaine de l'eau et de l'assainissement sont des sociétés françaises. Vous voulez un autre exemple ? Le solaire. On va devenir très bon. J'ai 10 autres exemples, 100 autres exemples de PME formidables. Ce qu'il faut, c'est ne pas penser que les autres sont meilleurs, qu'il faut laisser la production aux autres. Quand je vois que, par exemple, on pourrait abandonner notre agriculture formidable, je deviens fou. Mais le plus important, c'est peut-être pas ça. Il y a une sorte de maladie de la peur chez nous. Mais pourquoi, avec tous les atouts qu'on a ? Et la peur, c'est le pire des ciments d'une société. Regardez ce qui se passe avec les chiens. Quand on a peur...
Ils vous mordent.
Ils vous mordent.
Ils vous mordent.
Moins on aura peur, moins on sera mordu.
Voilà, n'ayez plus peur, n'ayez plus peur, nous dit Éric Orsenna. Là, que 100, que 1000 PME fleurissent, c'est l'optimisme et le volontarisme d'Éric Orsenna.
Oui, et puis en plus, ce sont des paroles assez incantatoires, parce que d'une certaine manière, voilà. On n'attend pas ni après lui, ni après les hommes politiques, pour qu'il y ait des entrepreneurs, il y en a toujours eu, pour qu'il y ait des ouvriers, des ingénieurs qui se décarcassent dans des entreprises pour trouver des projets intéressants, les mettre en œuvre et les produire. Le problème, c'est justement pas tellement à cet endroit-là qu'il se trouve, c'est tout ce qu'on a dit auparavant sur arraisonner la finance, maîtriser ou redonner aux entreprises, aux grandes entreprises, remettre peut-être de la démocratie, enfin remettre, en mettre, parce que, bon, dans ces entreprises, pour qu'elles soient gouvernées autrement. Donc, bizarrement, les solutions qui vont être avancées progressivement, en fait, c'est plus des éclairages sur ce que pourrait être l'avenir que des solutions qui vont être avancées dans l'émission. On ne voit pas en quoi elles mobilisent l'économiste, c'est-à-dire en quoi elles posent la question « Bon, maintenant qu'on a dit ce qu'on a dit, tout ça, c'est de la faute au libéralisme, quels sont les nouveaux agendas de l'État ?» C'est ça que doit faire un économiste. Ce qu'on va nous faire voir, peut-être, c'est le green business, des cerfs-volants qui vont remplacer des éoliennes, la microfinance.
On va en parler.
Voilà. Mais ce ne sont pas des solutions structurantes au niveau politique.
Oui.
Ce qu'essaye de nous faire comprendre Éric Orsenna, là, c'est quand même assez terrible. Ce serait l'idée d'une France frileuse, qui du coup a vu partir sa prospérité ailleurs, c'est-à-dire dans les pays émergents, et si ces Français ne retrouvent pas un petit peu d'agressivité, de confiance en soi, ça ne va pas aller. Donc la solution, et toutes les solutions qui sont données, sont des solutions sur, grosso modo, les comportements. Il faut changer de comportement, mais les structures, non.
Oui, mais c'est ce que nous dit Nicolas Hulot. C'est ce que nous dit Yann Arthus-Bertrand avec la brosse à dents. Je suis sûr que vous faites partie de ces gens qui, pendant que vous mettez le dentifrice sur la brosse, laissent le robinet couler. Voilà, si vous voulez que le monde change, il faut couper l'eau du robinet pendant ce temps-là. C'est un peu des solutions comme ça, ça dépend de nous, quoi. Ça dépend de chacun d'entre nous.
Et on s'aperçoit d'emblée que ce ne sont pas des solutions à la hauteur, bizarrement, de la dénonciation qui a été faite, quand même, et qui a couru le long de l'émission. On s'aperçoit quand même que le mal, entre guillemets, auquel on a affaire, ne va pas être domestiqué et arraisonné, simplement parce que, tout d'un coup, on se murait de personnes de mauvaise volonté en personnes de bonne volonté. D'ailleurs, la question devrait être inversée, parce que de l'éthique, il y en a toujours. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est qu'un agent économique qui serait sans morale ou sans conscience. Donc, il y a toujours une conscience. Bon, comment ça se fait que dans la période des 25 dernières années, la conscience des agents économiques a été complètement chloroformée, détruite. C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il a détruite ? Ce n'est pas un mauvais gène. Ce sont bien les structures du capitalisme financiarisé et libéralisé qui a détruit l'éthique. Bon. Donc c'est un peu comme la confiance, on en parle au moment où ça a pratiquement disparu. Mais on comprend qu'on n'aura pas de solution. Par exemple, le mal est en partie venue de la libéralisation financière. Les forces